Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance, pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur te convient. Par le biais de ce message, laisse ton esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Nous voulons nous rasseoir dans ta présence et écouter ta voix. Nous voulons nous asseoir à tes pieds ce matin et entendre la parole que tu as prévue pour nous. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir favorablement cette parole. Dispose nos cœurs afin que nous puissions la retenir. Saint-Esprit, prends le contrôle, inspire-moi afin que je parle selon toi. Je dis chaque chose selon toi. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore donner gloire à notre Seigneur par des acclamations? Alléluia. 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 Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 23, ce n'est pas nécessaire de prendre le passage, et dans le même passage parallèle de Luc aussi, le Seigneur dit, en parlant des semences qui sont tombées dans la terre, une qui n'a pas porté son fruit parce qu'elle a été ôtée par les oiseaux, qui est le symbole de ceux qui ne retiennent pas la parole de Dieu. Et le diable vient enlever parce qu'ils n'ont pas saisi un message. Il dit, il représente donc ceux qui reçoivent la parole comme sur un chemin. Et le diable vient enlever. Il dit encore, la parole est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. Elle a commencé à pousser, mais dès que le soleil est apparu, la plante a séché. Parce que comme elle est tombée dans un endroit où il y avait des pierres et un tout petit peu de sable, elle n'a pas pu le temps de faire pousser ses racines et de pouvoir puiser l'eau en profondeur. Donc la plante a vite grandi, elle est vite sortie de terre, mais elle n'était pas enracinée. Lorsque le soleil est apparu, et le Seigneur Jésus dit, c'est le symbole, c'est l'image donc des persécutions, des oppositions. Autrement dit, lorsqu'on reçoit une parole, il y aura toujours des circonstances qui viendront s'opposer à ce que nous venons d'entendre. C'est ce qu'il a symbolisé ici donc par le soleil. Il dit, parce que la plante, la graine n'avait pas des racines profondes, elle a séché. La troisième graine est tombée dans un endroit où il y avait plus ou moins une bonne terre, sauf que autour de la plante, il y avait des herbes épineuses. Donc lorsque la plante a commencé à pousser, elle a eu le temps de bien s'enraciner, mais lorsqu'elle a commencé à pousser, elle a été étouffée par les épines. Et la Bible présente donc ces épines-là comme étant peut-être le symbole donc des mauvaises compagnies, des circonstances, des angoisses, des peurs. Et dit donc, la peur, les inquiétudes, les soucis des richesses ont empêché la plante de donner son fruit. Alléluia. Alléluia. Et c'est à partir de cette image-là que je veux partager l'exhortation. Amen. Donc, il y a un certain nombre de croyants qui ne retiennent pas réellement la parole de Dieu, qui entendent les messages et ils savent que Dieu est présent, Dieu est là, mais ils n'ont pas de racines profondes dans leur cœur. Ils ne laissent pas la parole entrer profondément en eux. Ils ne laissent pas la parole s'installer réellement. Ceux-là, dès que survient une opposition au message qu'ils ont entendu le dimanche, qu'ils ont entendu en semaine, qu'ils ont entendu de la part de Dieu, ces personnes-là ne perdent le bénéfice de la parole. Ça veut dire que la parole n'a même pas le temps de donner son fruit. Parce qu'entre l'instant où vous recevez une prédication et le moment où la prédication va donner son fruit, il s'écoule un temps. Parce que chaque message que vous recevez est une semence dans votre cœur. Alléluia. Si tu reçois la parole qui dit, tu es un champion, c'est la vérité, tu la reçois et tu cries dans la salle, amen, je suis un champion, la parole tombe dans ton cœur. Mais ce n'est pas que du jour au lendemain, le lendemain même, tu vas terrasser tous les ennemis qui se dresseront devant toi. Elle doit tomber dans ton cœur. Cette semence qui a déclaré que tu es un champion doit entrer en toi. Elle doit poser des racines. De sorte que lorsque tu vas te lever et que la vie va vouloir te faire croire, te dire que tu n'es pas un champion, tu puisses tenir. Donc, si tu n'as pas reçu la parole, que tu as juste crié à l'église, amen, mais tu n'as pas laissé la vérité d'être un champion en Christ enracinée dans ton cœur, quand tu vas arriver et que ton patron, tes collaborateurs et que ton loyer, ton propriétaire, en tout cas des personnes à qui tu dois venir te faire appeler, qu'ils te tiennent, alors, donc c'est ça le soleil qui se lève, tu oublies directement la parole qui avait déclaré que tu étais un champion. Donc ce type de croyants ou de personnes qui reçoivent le message de la sorte représente donc la graine qui est tombée dans l'endroit où il y avait des pierres. Et puis, il y a ceux-là qui méditent la parole, qui la laissent entrer dans leur cœur, qui prennent des notes, retournent chez eux à la maison, relisent ce que le Seigneur a dit au travers du serviteur de Dieu, prient le Seigneur en fonction. Mais un autre problème, c'est qu'ils n'ont pas triomphé des soucis. Lorsqu'ils ont ils entendent des mauvaises nouvelles, lorsqu'ils apprennent que ça sera compliqué de gérer tel ou tel aspect financier, leur cœur est envahi de peur. Leur cœur est envahi de peur, d'angoisse. Et ils se demandent, mais où je vais trouver l'argent pour décanter ceci? Et le texte de Matthieu 13 dit, ce type de croyants ne porte pas du fruit. Pas parce qu'ils n'en retiennent pas la parole de Dieu, non. Mais à cause des soucis, à cause des inquiétudes, des richesses de ce monde. C'est-à-dire, comment trouver les moyens de résoudre telle ou telle chose? Et cela préoccupe tellement leur esprit que l'effet de la parole est atténué. Elle n'a pas d'effet. Donc il dit, cette plante-là a porté du fruit qui n'est pas arrivé à maturité. C'est-à-dire, vous voyez des chrétiens qui n'achèvent jamais l'œuvre que Dieu a commencée. Parce qu'on sent le fruit. Tu commences à sentir qu'ils entrent dans une dimension où ils semblent être dans la victoire. Mais la victoire n'est pas totale. Parce que Luc présente ceci en disant, ils portent du fruit, mais le fruit n'est pas arrivé à maturité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'achèvement de l'œuvre qui avait été commencée. Parce qu'en chemin, ils ont été distraits, angoissés, attristés, préoccupés par le manger, le boire et par diverses autres choses. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, le texte que j'ai cité tantôt, il dit, ceux par contre qui portent du fruit et qui le fruit demeure, il dit, ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu, qui la gardent. La nouvelle version dit qu'ils la retiennent. Il faut retenir la parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on est une église où on prie, mais on enseigne beaucoup. Un peu comme si Dieu nous fait passer par une période où on doit recevoir la parole. Et Dieu nous dit des choses très importantes pour notre vie. Mais pour que cela puisse porter son fruit, il faut que vous développiez la mémoire, le fait de mémoriser, de retenir les messages. Vous devez les garder. Le texte dit, celui qui a reçu la parole et qui la conserve. Parce qu'il y a certains qui reçoivent la parole, mais qui ne la conservent pas. Cela ne donne pas leur fruit. Il y a un effort supplémentaire que vous devez fournir quand vous venez au culte. Si vous ne retenez pas la parole de Dieu, elle ne donnera pas son fruit. C'est-à-dire, la promesse du Seigneur ne s'accomplira pas. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Alléluia. Sans quoi, toutes les bénédictions que vous avez reçues en début de cette année ne seront que des slogans, des bonnes années. C'est-à-dire, comme on salue tout le monde dans la ville. Bonne année, bonne année. C'est dommage. Par exemple, les gens sont partis se souhaiter les vœux sur le pont pour faire la fête. Ils ont dit, mon frère, quand ils ont fini le pont là, les minutes s'est passé, je suis triste à leur place. Vous imaginez, tu sois toujours bonne heureuse année. Tu ne sais pas que dans 20 minutes, tu vas mourir. Ils sont fait la bise autour là-bas. Oui, gloire à Dieu, minuit est passé. Ils se sont embrassés. Bonne heureuse année. Vraiment, que 2013. Mais quelques jours, l'esprit de la mort les a attrapés. Que Dieu éloigne de ce pays cet esprit de mort dans le nom de Jésus. Mais ceux qui étaient à la veille, le Seigneur nous l'a dit. Je ne sais pas que ça allait être sur place en même temps là. Quelques minutes, quelques heures après la parole de la veillée. Le Seigneur m'a montré des temps qui allaient être difficiles pour le pays en 2013. Je vois dans mon esprit, c'était un soulèvement, des mouvements. C'était un trouble. Et j'ai senti aussi comme... comme si la santé, la vie des gens allait être en danger. Et on a beaucoup prié pour la santé, pour que Dieu préserve la famille, les proches, on a prié. D'habitude, je ne prie pas comme ça pour la santé, on prie, on dit que Dieu te donne la santé. Mais on a prié, on a prophétisé. Et c'est comme cet esprit-là qu'on sentait venir encore sur le pays. Et j'ai dit aux gens, les esprits qui ont décidé de plein subir dans le chaos ne sont pas totalement partis. Vous savez, c'est pas, faut pas regarder les politiques. Nous, nous parlons par l'esprit. Nous regardons l'atmosphère spirituelle des choses. Il y a des démons de sang qui ont réclamé cette nation. Ils ne sont pas partis. L'Église a pu toujours faire obstacle et empêcher leur plan. En 2013 encore, nous allons nous lever dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Et nous avons ce combat-là à mener jusqu'à ce que ce pays soit réellement délivré et entre. Mais tant qu'on n'a pas traité, il y aura comme une épée, comme on dit, l'épée de Damoclès sur la tête de ce pays. C'est-à-dire à tout moment et à la moindre faille, au sommeil, à la négligence, des choses terribles vont se produire. L'année est assez difficile. Mais certains seront glorieusement épargnés. Et tu fais partie de ce lot qui sera glorieusement épargné. Dieu t'a choisi pour que tu sois glorieusement épargné. À tout point de vue. Les prix augmenteront. Mais écoute-moi, tu ne seras pas atteint. Quelqu'un t'a dit, mais pasteur, comment je peux ne pas être atteint? Tout le monde doit acheter le gaz. Mais j'ai dit, écoute-moi de la part du Seigneur. Tu ne seras pas atteint. Car aussi longtemps que les choses augmenteront, toi aussi tu augmenteras. Donc ça fait un équilibre. Mais le truc c'est que tu augmentes en multiplication. Il en sera ainsi en 2013 pour ceux qui s'attachent à Dieu. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ça ne sera pas pour tout le monde. Cette année, malgré tous les troubles autour, Dieu va distinguer plusieurs. Il va montrer une marque de, il va démarquer ceux qui lui appartiennent. Ça n'est pas dit qu'il n'y aura pas de persécution. De toute façon, il y en aura même. Mais la persécution n'est pas une malédiction pour un chrétien. Quand je dis comme ça que certains iront en prison, il y en a qui disent parce que c'est une mauvaise nouvelle. Mais la prison, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une parenthèse. Alléluia. Alléluia. Dieu va démarquer son peuple. Tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. J'ai appelé mon exhortation d'aujourd'hui, qui est la suite de ce moment de rappel que je suis en train de faire en ce qui concerne certains principes que Dieu nous a enseignés. Et j'ai dit, j'ai intitulé ce rappel-là du jour ainsi, trois points sur la mentalité qui va précéder votre distinction en 2013. Je vais citer trois points sur l'attitude intérieure que vous devez manifester. Je dis trois points parce qu'il y en a plusieurs. Donc trois points sur certaines attitudes intérieures que vous devez manifester afin que ce que le Seigneur est en train de dire soit une réalité pour vous. Il dit, la parole a été semée. La prophétie est venue, c'est ça la parole de Dieu qui a été semée. Dieu a déclaré certaines choses, mais il y a eu quatre types de réactions face à la parole de Dieu. Sur les quatre types de réactions, une seule des réactions a été favorable et a permis à la parole de Dieu d'être effective. Que tu sois dans le nom de Jésus, dans ce incarne-là en qui la parole va faire du bien. Que tu sois de ceux-là qui gardent la parole, qui gardent la promesse, qui l'écrivent, qui la notent et qui s'attendent à son accomplissement. Dimanche après dimanche. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas prendre des notes. Moi, tous les messages, si vous prenez ma tablette là, je suis là. Dès que quelqu'un commence à prêcher, j'arrive dans n'importe quel endroit. Même si le pasteur même va dire un truc même qui est bizarre, je vais noter quand même. J'ai un truc là-dessus pour enregistrer. J'enregistre tous les sons. Et puis je prends des notes. Je prends les versets, j'ai un moment où je commence à réviser. J'apprends tellement avec les gens. Même dans un message qu'on dit qui n'est pas intéressant, moi je tout. C'est pas quoi. Dès qu'on cite un verset, ça me. Dès que tu dis la Bible dit là. Même si après tu as parlé bizarrement. Mais ça me fait du bien quoi. La victoire n'est pas un hasard. Ce n'est pas un concours de circonstances. La victoire se prépare, elle est planifiée, elle n'est pas un accident. La réussite n'est pas un accident. La distinction n'est pas un accident. Il y a des choses, mais la plupart de ces choses se passent à l'intérieur de vous. La plupart des choses qui précèdent votre distinction sont des choix que vous faites. La parole est donnée. La graine a été semée en Matthieu 13. Mais là, il ne s'agissait pas de la qualité de la graine. Il ne s'agissait pas de la qualité de la prophétie. Mais de la qualité de la réception. La graine qui est tombée sur le chemin que les oiseaux ont mangé était une bonne graine. C'est la même graine. La même qualité de graine est tombée dans l'endroit où il y avait des pierres. La même qualité de graine est tombée là où il y avait des épines. La même qualité de graine est tombée dans la bonne terre. La même qualité. Mais les cœurs ont reçu le message de différentes façons, avec des dispositions différentes. Certains n'ont pas pris le temps de dégager devant eux pour que la parole de Dieu puisse croître. Ils n'ont pas pris le temps de labourer leur cœur. Je sais, je prophétise, je prie. Que tu sois dans le Inca, là, la terre qui donne son fruit, que cela soit ton partage en 2013, dans le nom de Jésus. Afin que la prophétie que je suis en train de dire, selon laquelle, dans cette année difficile, plusieurs vont prospérer, mais de manière dangereuse. Comment je parle de prospérité là? Je parle de la croissance, l'épanouissement, la progression spirituelle. Vous aimez l'argent, vous aimez l'argent. Quand on dit à quelqu'un, tu es béni, vois l'argent. On dit, tu es béni, vois-tu. Je vous ai dit, depuis que je suis en train de rappeler, est-ce que vous recevez la parole? Je vous ai dit, Dieu donne des capacités. Dieu ne donne pas le matériel. C'est ta sagesse qui crée le matériel. C'est ce qu'il a mis en toi là. Qui va... Sans quoi, ce sont des arrivées ponctuelles. Mais qui ne vont rien produire si tu n'as pas la bonne disposition. Ça ne peut pas produire. Quelqu'un qui n'a pas la bonne disposition, tu lui donnes 10 millions. Il ne va rien en faire. Tu es en train de dire, non, pasteur, prions. Vraiment, on n'a qu'à me donner un prêt. Je vais commencer mon projet. Dieu même ne veut pas qu'on te prête l'argent. Vas-y, c'est que tu vas perdre. Tu dis, pasteur, mon projet est clair. Ton projet n'est pas clair. Tu es tellement focalisé sur l'attente de l'argent que tu ne prends pas le temps de préparer ton projet à fond, de l'étudier, de regarder tes mobiles dans l'activité que tu veux faire. Tu ne juges pas ton cœur. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les portes. Mais tu es tellement focalisé. Oh, dès que mon oncle va me prêter cet argent, je vais démarrer. Tu n'es pas prêt à démarrer. Tu n'es pas prêt. Donc Dieu va fermer ton nom. Il va lui dire, ne donne pas. Tu vas aller pleurer sur ton oncle. Il m'a promis. Mais c'est Dieu qui l'empêche de réagir. Parce que tu vas perdre cet argent. Et quand tu vas le gaspiller, tu as attiré dans ton projet que tu es en train de mettre en place des personnes qui vont te piller tout cet argent-là. Et puis tu crois que ta structure est solide. Tu as pris des gens parce que ça te plaît. Tu as pris tes copains. Tu dis, venez, voilà. Tu vas avoir 20 millions bientôt. On va travailler. Toi, tu vas t'occuper de ça. Tu n'as même pas prié Dieu pour savoir qui tu vas prendre. Est-ce que les 20 millions-là vont revenir une autre fois? Pourquoi tu veux que Dieu te donne ça vite? Et maintenant, tu es en train de prier sur la tête de ton pauvre oncle. Prions que Dieu le dispose, que Dieu, il est endurci. Il n'est pas endurci. C'est Dieu qui l'a endurci parce que toi, tu es bizarre. Je veux monter un projet, Je vais acheter 10 taxis. Ton projet n'est pas viable. Il est mal étudié, il est mal abordé. Mauvais calcul, rien de bon. Tu as fait un dossier, si quelqu'un te prend même un petit comptable ici, il va te démonter ça. Rien. Et tu veux un financement. Aucune garantie, aucun plan d'amortissement, rien. Tu crois que chaque jour, ce sont les miracles. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu vous distingue en cette année qui vient, pour revenir à la porte sur être au bon endroit au bon moment, parce que les trois points que je vais partager sont tirés de être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire, il faut que vous soyez là où Dieu veut que vous soyez. Il faut que vous vous investissiez là où Dieu souhaite que vous vous investissiez. Mais il est probable que vous ne discerniez pas exactement là où Dieu veut que vous investissiez parce que vous n'entendez pas clairement sa voix. Pourquoi vous n'entendez pas? Parce que vous êtes trop angoissé, vous avez trop de soucis par rapport à certaines choses. Là, comme ça, quand je viens de dire que là, on vient d'annoncer que le prix du gaz a augmenté, plusieurs sont en train de pleurer. Et ils sont dans l'église. Qui sincèrement est triste de l'augmentation du prix du gaz? Qui est triste? Soyons honnêtes, levons la main. C'est vrai, ce n'est pas normal, on n'est pas content. Mais il y a une mentalité qui est différente. Il y a une façon d'aborder les choses qui fait la différence entre celui qui s'apprête à échouer et celui qui va réussir. Dieu dit qu'en 2013, il veut te distinguer. Maintenant, l'essence a augmenté, le gaz a augmenté, l'électricité va augmenter. Ça a déjà augmenté, faut pas t'inquiéter. Donc ça va venir encore. Et ton salaire ne va pas augmenter. Donc catastrophe à l'horizon. Mais ce n'est pas catastrophe, opportunité à l'horizon. Alléluia. Toutes tes fonctions. Mon premier point c'est, mais en fait tu regardes la situation en quoi? En victime ou en vainqueur? Ça fait la différence. Et ça, le Seigneur veut que vous le compreniez. On a beau venir à l'église, beau entendre des messages, ça je l'ai enseigné dans l'enseignement, être au bon endroit au bon moment, les circonstances ne doivent pas déterminer le type de réaction que vous devrez avoir. La parole de Dieu est la vérité. Dieu élève ses enfants, mais il élève ceux qui mettent sa parole en pratique. Dieu protège. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Genèse chapitre 1 verset 26, à partir du verset 1, qu'il y a eu une famine. Je lis rapidement Genèse 26, 1. Il y eut une famine dans le pays, où la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset, chapitre 26, verset 12, il est dit, Isaac sema. Dis avec moi, Isaac sema. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le béni. Alléluia. Si vous notez bien le début de ce texte, il est dit qu'il y avait une famine. Il y avait une circonstance négative. Il y avait une famine comme celle qui est en train de s'annoncer sur la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est en train de réfléchir comment aller à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsque nous parlons de ces prophéties, c'est de réfléchir comment est-ce qu'ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Est-ce que Dieu te veut là où tu es parti? C'est peut-être que tout le monde veut fuir pour aller au Ghana. On ne va pas là-bas. Reste tranquille. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Isaac, ne bouge pas. Reste dans la famine là. On dit, Il dit, sème ici. Parce que c'est ton territoire. C'est là que je t'élève. Mes amis, c'est important. Les circonstances ne déterminent pas vos choix stratégiques. Est-ce que vous me suivez? C'est le Saint-Esprit qui doit vous dire là, l'endroit où vous devez vous investir. Semer, c'est s'investir dans quelque chose. Je sème mon temps dans quelque chose. Semer, c'est prendre l'argent que Dieu t'a donné. Investir dans un projet, c'est ça semer. La Bible dit, Isaac sema dans la famine. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a récolté au centuple. C'est-à-dire quoi? Que pour Dieu, même en période de famine, Dieu multiplie par 100 la productivité normale. C'est-à-dire, en période de pluie ou en situation normale, il y a une production. Mais un croyant, quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, qui s'investit, là il doit s'investir. Quand Dieu lui demande de s'investir dans un créneau, dans une activité, dans un domaine précis, Dieu multiplie sa semence, il multiplie sa récolte par 100. La prophétie qui annonçait que Isaac allait être quelqu'un de très riche, qui allait bénir le monde, s'est accompli en période de crise. Les prophéties sur vos vies, la faveur de Dieu sur votre vie, ne va pas s'accomplir quand tout va bien fonctionner. Ce qui fait que vous êtes un héros, c'est le fait que vous arrivez à triompher d'une situation de laquelle les autres n'arrivent pas à triompher. C'est ça qui fait la distinction. Ce qui fait que vous allez arriver à aider des personnes, à les faire sortir. Ce qui fait que nous sommes la lumière du monde. Ce qui fait que nous sommes le sel de la terre. C'est notre capacité à nous adapter, à trouver la sagesse de Dieu et en situation difficile, à faire la différence. La crise, les difficultés qui viendront seront les moyens que Dieu va utiliser pour enlever certains moyens dans la main de certaines personnes, pour les envoyer dans la main de ceux qui le craignent. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Mais encore, il faut que tu arrives à entendre la voix de Dieu. Parce que entre la voix de la peur, parce que la peur parle, le ventre parle. Jésus dit un jour en Matthieu chapitre 16, il dit ceci à Pierre. Il dit: Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Autrement dit, la chair aussi donne des révélations. Le sang, c'est-à-dire l'âme, donne des révélations. Il dit à Pierre: la révélation dont tu parles, ce que tu es en train de dire, ça vient du Dieu. Donc, quand Dieu vous parle, il te dit: ma fille, fais la loco cette année. Tu dis: la loco que tout le monde fait à Abidjan ici. Il te dit: fais la loco. Il y a deux choses que tu vas entendre. Soit tu vas entendre la voix de ta chair. C'est quoi la voix de la chair? La voix de la chair, le corps prend les bruits du dehors. Parce que juste avant de demander: qui dit-on que je suis? Il a demandé: dans la ville, on dit je suis qui? Il y en a qui disent: il paraît que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tout ça là. Il dit: ça, c'est ce que les gens ont dit. Maintenant, vous dites quoi? Ça, c'est important. Qu'est-ce que les gens disent du pays? Quel est le bruit qui est dehors? Le bruit du dehors n'est pas forcément le bruit qui brûle en toi. Les annonces extérieures sont peut-être très différentes du son de l'esprit qui brûle dans ton cœur et qui veut te montrer une autre voie. Alléluia. Il y en a qui ont déjà démissionné. Ils ont dit: c'est comme ça, ils vont aller passer, ils vont aller faire, ils vont aller couper le bois dans la forêt, gaz, tout ça là, c'est fini. Ils vont revenir au bois. Bon, peut-être que c'est ton dessein, mais est-ce que c'est pas par peur? Est-ce que tu n'es pas en train de fuir? Tu vas aller te réfugier, tu as ta voiture essentielle, il faut que je la vende vite. Je vais me réfugier au gasoil. Le gasoil va augmenter, attends. Après gasoil, tu vas chercher quoi? Tu vas aller payer mobilette. Ouais, moto, après moto, mobilette, vélo. Tu es mon frère, vélo, on est tranquille. Si c'est le plan de Dieu que tu fasses du vélo pour ton sport et ta santé, gloire à Dieu. Mais si c'est par peur, tu vas aller en t'appauvrissant. Parce que la prophétie n'a pas d'effet à cause des soucis et des inquiétudes qui viennent de la vie. On a prophétisé qu'en 2013, Dieu allait te distinguer. Mais tu n'arrives pas à être distingué parce que tu entends et tu agis par rapport aux bruits qui disent qu'il y a une famine. Dans la famine, Dieu a fait prospérer Isaac. Demande-moi, comment cela se fera-t-il? Amen, amen, amen. La première des choses, qui est le premier point, je dis ceci, je dis: renommer les circonstances défavorables. Le premier point, renommer les circonstances défavorables en votre faveur. Alléluia. J'avais expliqué, c'est important. Amen, amen. L'Éternel, Genèse chapitre 2, verset 19. Il est dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Genèse chapitre 3 verset 1. Notez ce passage, je vais assez vite à cause du temps. Genèse chapitre 3 verset 1 dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je vais encore faire une autre lecture, puis je fais mon commentaire. Dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1, je lis. Notez bien les références, suivez à l'écran quand je les donne, et puis relisez, retenez ces choses. Il est dit: il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Le bruit vient donner une information à Jésus. Ton ami, ton pays, la Côte d'Ivoire que tu aimes, les choses, la situation est maladive. Et Jésus dit, Jésus reçoit l'information, mais il la réadapte. Il dit, après avoir entendu cela, c'est un peu comme si Jésus n'avait pas l'information avant. Il y a un son que tu entends. Il y a un bruit que tu entends. Et quelle est ta réaction face au bruit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Je dis tantôt, renommez les circonstances défavorables. Amen. Qui est ce point-là. La Bible dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, oh, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus, Jésus. Broncher dans ce cas-là, ça parle de trébucher. Jésus dit, si quelqu'un marche pendant le jour c'est quand le soleil se lève, c'est pas ça? Il dit, si quelqu'un marche quand tout est clair, effectivement il ne va pas tomber, c'est plus facile. Mais il dit, quand tout est noir, la personne va tomber. On peut avoir le texte à l'écran, s'il vous plaît, la projection. Il dit, si quelqu'un... Il n'y a pas de chose. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point ou il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il tombe parce que la lumière n'est pas en lui. Écoutez, le texte ne dit pas il tombe parce qu'il fait noir. Il dit c'est vrai qu'il fait noir, mais sa chute n'est pas fonction de l'absence du soleil. Sa chute est fonction de la lumière qui est en lui. C'est-à-dire, alléluia, que ceux qui marchent avec Jésus ont 2 lumières avec lesquelles, quand il fait soleil, c'est-à-dire, on dit la Côte d'Ivoire, ça marche à l'argent. Toi aussi, tes affaires ne trébuchent pas parce que c'est évident qu'on est dans une période favorable. On est dans une période de faveur, l'emploi, l'économie est en train de tourner, les choses vont, la vie spirituelle, tout va bien. Il y a des périodes pareilles. Ils disent là, tout le monde est tranquille. Et il dit ceci. Par contre, on passe par des périodes où il fait sombre, où l'annonce, le projet semble trouble. Il dit, si quelqu'un tombe dans cette situation, si quelqu'un échoue dans sa vie spirituelle, dans ses affaires, dans son travail, il dit, c'est parce que, pas parce qu'il fait noir dehors, il dit ici, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche ou il tombe. Certaines versions disent, il trébuche, il bronche parce que la lumière... Il n'a pas dit, c'est pas parce que, il dit, parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que ce qui fait la différence dans la période des troubles, c'est la lumière qui est en toi. Amen, amen, amen. Amen. Et pourquoi Jésus a dit cela? Il a dit ça aux disciples, parce que tu ne comprends pas le lien entre la résurrection avec ça et puis la résurrection de Lazare. Il leur a expliqué, tout dépend de comment vous traitez en fait les informations. Si l'information qu'on vous amène est noire et que vous-même vous pensez que tout est noir, dans l'intérieur de votre cœur, vous allez trébucher. Mais si on veut vous annoncer que le futur est noir et que vous avez de la lumière en vous, la lumière c'est quoi? C'est l'espérance. La lumière c'est une autre vision de la chose. Amen. Parce que quand on parle de lumière, on parle de vision. Est-ce qu'on est ensemble? La lumière c'est une façon différente de voir les choses. Alléluia. Donne-moi un bon amen vitaminé. Après ces paroles, verset 11, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Amen. Lazare était mort, quand vous continuez la suite du verset. Mais Jésus n'a pas appelé la mort mort. Il a appelé la mort sommeil. C'est une manière de faire. C'est une manière de parler. Quand Dieu dit, je vais distinguer une personne, il peut le faire comme le cas d'Isaac tantôt. Dans des périodes dites troubles, dans des périodes où on vous semble compliqué. Il dit, dans la période où ça semble compliqué, tu peux tomber si à l'intérieur de toi, il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas une certaine manière de voir les choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia! Je pense qu'aujourd'hui, on ne fera que le point 1. On dit Lazare est malade. Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis, il donne une parabole pour laquelle on ne comprend pas le lien entre Lazare qui dort et puis une affaire de lumière. Qui a parlé de lumière? Parce que les gens sont venus lui dire, les Juifs ont voulu te tuer. Il dit, dans la nuit, quand il fait jour, personne ne tombe. Quand il fait nuit, tu tombes parce que il n'y a pas de lumière en toi. Lazare, notre ami, dort. Bon, la phrase que tu as introduite là, Jésus, quel est le lien? Tu n'es pas au sujet. En train de dire que Lazare, on va ou on ne va pas? Jésus lui répond, non, on y va ou on n'y va pas. Il donne une réponse là, on ne sait pas. Parce que les disciples ont dit, mais dernièrement, les Juifs ont voulu te tuer. Tu veux encore repartir en Judée? Il dit, un homme tombe quand il n'a pas de lumière en lui. Quand il fait jour, personne ne tombe. Mais quand il fait nuit, seuls tombent ceux qui n'ont pas de lumière en eux. Lazare dort. Allons-y le réveiller. Alléluia. Moi, j'aime Jésus parce que on ne le suit pas. Il n'est pas conventionnel. Il a une logique. Alléluia. Mais si vous prenez le temps avec humilité pour lire notre maître Jésus, notre Seigneur, vous allez voir qu'il vous donne des mystères, des solutions extraordinaires aux problèmes de la vie. Il t'explique comment réagir face aux mauvaises nouvelles. Il t'explique comment tu traites les choses. Tout dépend de la lumière qui est en toi et de la façon dont tu interprètes les faits. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire tantôt? Tout à l'heure, j'ai lu le texte de la Genèse, chapitre 3. En parlant, la Bible dit que Dieu est venu, il a appelé l'homme, il lui a dit, donne des noms aux animaux. Donne-leur des noms. Et la Bible dit que Dieu a donné à l'homme de donner des noms en disant ceci, je vais voir comment il va les appeler. C'est-à-dire, Dieu même s'est assis pour observer la façon dont Adam donnait des noms. La manière dont il raisonnait. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il dit, mon fils, tu vois, c'est toi qui choisis d'apprécier certaines choses qu'on t'envoie. Les animaux, je t'envoie. Mais ce qu'ils seront, parce que donner un nom, c'est donner une destinée à la chose. Il dit, ce qu'ils seront, ce qu'ils vont être, dépend du pouvoir que j'ai mis dans ta bouche. Si tu les appelles dangereux, ils seront dangereux. Regardez, et ce matin, pendant que je mettais là-dessus, j'ai compris d'où venait la chute. C'est le nom qu'Adam a donné au serpent. C'est lui-même Adam qui dit, Dieu a créé le serpent, et puis il dit, le nom même serpent. C'est Adam qui a donné des noms à tout le monde. Il explique que il dit que le serpent est un roublard. Adam a appelé serpent roublard. Et c'est ce qui s'est dit effectivement sur la base du nom que tu lui as donné. Il a agi dans ta vie selon la façon dont tu l'as vu. La Bible dit, c'est à Adam qu'on a donné. C'est pas Dieu n'a pas donné le nom au serpent. Alléluia. L'Éternel Dieu forma tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel. Genèse 2:19. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc ce n'était pas une affaire, le nom qu'on donne aux choses. C'est-à-dire, c'est quoi le nom? C'est la désignation. C'est la manière dont on indique une situation. Et Dieu t'as donné le pouvoir de donner une certaine appréciation aux choses, aux animaux, aux circonstances qui viennent vers toi. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Parce que c'est sa façon de marquer l'autorité. Un père, pour dire que c'est son fils, lui donne le nom. C'est toi qui donnes. Alléluia. Maintenant, il y a deux manières de donner. Soit tu donnes un nom en fonction du constat que tu fais, soit tu donnes un nom en fonction du rêve que tu as. Quelqu'un me suit? Tu peux donner un nom pour constater un fait. Tu dis, ah, l'enfant là, mon grand-père s'appelait tant, je l'appelle tant. Ça, c'est un nom de constat. C'est-à-dire, c'est là. je parle contre ton grand-père, peut-être ton grand-père a un bon nom, que son nom soit béni, que le nom du grand, on bénisse le grand-père, il n'y a pas de problème. C'est ce que Isaac a fait. Parce que Jacob est né bizarrement, il a appelé trompeur. Jacob a trompé son papa. S'il n'avait pas appelé Jacob, Jacob n'aurait pas été roublard. Est-ce que quelqu'un veut me comprendre, veut comprendre de quoi je parle? Jacob, lorsque Dieu a voulu changer, Dieu a donné à Jacob le nom de sa destinée. Il dit, maintenant, tu n'appelles plus Jacob, on t'appelle Israël. Le nom que vous donnez aux choses détermine la réaction de ces choses-là dans votre vie. Papa Isaac a appelé un de ses jumeaux Jacob, qui veut dire usurpateur. Son fils l'a usurpé. Jacob a usurpé son grand frère, il a usurpé son propre papa. Donc, qui est l'auteur de l'usurpation? C'est le donneur du nom. Le serpent, on l'appelle lui le plus rusé de tous les animaux, un roublard aussi. Parce que le mot rusé qu'on utilise, ce n'est pas un mot positif. Ça dit que Adam était dans la forêt, il a vu le serpent. Le serpent ne lui a pas plu. Il dit, pourquoi tu es bizarre, tu te tords comme ça là. Tous les animaux marchent droitement. Parce que certainement que le serpent avait des jambes. Mais peut-être le serpent marchait, il se tordait. Il dit, tu n'es pas clair. Sur le fait que tu ne sois pas clair, tu as l'air bizarre. Tu te tords ici, tu reviens par là. Tu ne marches pas droit. Je t'appelle rusé de tous les animaux. Celui qui trompe ses amis. Qu'il en soit ainsi. Le lendemain, il est parti voir sa femme. Le fruit, il est bon à manger, hein? Je suis en train de dire, la façon dont vous évaluez les situations et le nom que vous leur donnez a une incidence sur votre réaction et c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, on dit, tout augmente. Plusieurs vont être victimes des montées des prix. Leur maison va commencer à s'appauvrir. Tout simplement parce qu'ils ont appelé la crise, crise. Parce qu'ils ont appelé l'augmentation. Et puis qu'elles ont vu dans les journaux l'information, on dit, on veut nous tuer à Abidjan. Ce que tu as dit, le nom que tu as donné à l'événement, est ce que l'événement produira dans ta vie. Mais la parole de Dieu t'a dit au culte que tu as été appelé pour régner. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comme le soleil s'est levé, comme les épines se sont dressées, tu n'as pas laissé la parole de Dieu donner son fruit. Et elle va mourir à cause de la manière dont la lumière qui est en toi, ce qui sort de toi n'est pas ce que Dieu aurait attendu. Donc tu appelles les choses comme elles sont. Mes amis, dans cette situation, quand il y a une crise, il y a plusieurs raisonnements. Il y a un autre qui entend l'événement et puis dit, oh, comment est-ce qu'on va aider ceux qui sont en difficulté? Quand j'entends que le prix a augmenté, les choses sont devenues plus chères, moi, dans mon raisonnement, comment faire pour donner accès? Ça dit d'abord, je ne sens pas même que moi-même je suis victime. Je ne me vois pas victime et ne te vois pas victime au nom de Jésus. Mais je regarde cette situation-là comme étant une opportunité d'aider d'autres personnes, de trouver une certaine sagesse. Par exemple, on dit le riz a augmenté. Celui qui va arriver à produire du riz moins cher va être une bénédiction pour tout son quartier et va être élevé, même si tu vends juste à ton quartier. Alors, si je commence à raisonner en disant le riz a augmenté et que nous tous on va le payer cher, je souffre. Parce que c'est le nom que je donne à la situation. Mais si je commence à regarder et puis à bien réfléchir, peut-être que j'ai trouvé que si moi-même je vais dans mon village, là, je plante un peu de riz, que je vais vendre un petit 5 kilos, 2 kilos à mes voisins, je vais les aider, je les vends au prix que moi-même j'ai décidé. Mais ce que tu vas faire en faisant ainsi, toi tu vas devenir riche. Certains voient dans les problèmes des problèmes, d'autres voient des opportunités. Ça fait la différence. L'image que vous avez d'une situation, dans toute la situation, il y en a qui vont devenir plus riches. Parce qu'ils trouveront des solutions. Parce qu'ils trouveront des solutions. Par exemple, il y a un frère qui est venu voir la dernière fois, il dit, oh, il a un produit qui, quand tu mets dans ta voiture, ça réduit la consommation. Bon, normalement, lui, s'il monte une bonne structure, selon les deux autres points que je vais dire après, il va s'en sortir. Oh, il y a un groupe de personnes qui constatent que les prix ont augmenté et ils subissent. Quand les choses changent, il y a ceux qui se voient toujours comme des solutionneurs et il y a ceux qui se perçoivent comme des victimes. Ça fait la différence. Ceux qui se voient comme des victimes sont ceux qui marchent en fonction de la lumière qui est dehors. Ceux qui se considèrent comme des solutions sont ceux qui marchent en fonction de la lumière que Dieu a semée dans leur cœur. Le monde a besoin de notre intervention. Le monde a besoin de la sagesse que Dieu a déposée en toi. Face au prix, aux choses qui sont en train d'augmenter, en toi, il existe une solution. Mais tu ne vas pas entendre la solution de Dieu parce que tu pleures trop. Et que tu regardes comment tu vas t'en sortir à la fin de ce mois. Tu regardes la famine au lieu de regarder la parole de Dieu. Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Quel nom donnes-tu à la situation? Comment la juges-tu et l'analyses-tu? Cette année, ton Dieu te distingue. Reçois la parole et applique-la. Alléluia. On vient de te renvoyer de chez toi. Tu viens de perdre quelque chose. Renomme la situation. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Vous voyez, il renomme la situation. Il prend l'ascendant. Celui qui donne un nom, prend l'ascendant sur la situation. Avant d'avoir la révélation de comment Dieu va le faire. On ne donne pas le nom après avoir eu la révélation de comment Dieu va te faire sortir de la crise. Tu ne sais même pas comment tu vas la gérer. Mais déjà, change ton langage. Tu dis, cette année en Côte d'Ivoire, on nous a donné beaucoup d'opportunités et de grâce. Nous allons faire quelque chose. Et déjà, par le langage que tu changes, tu vas commencer à prendre l'ascendant sur les circonstances. Et dans le calme intérieur, tu entendras la voix de Dieu qui te dira, sème dans ce territoire. Fais ceci exactement. Cette année, il va te dire, fais les tresses, va tresser les gens. Mais si ton cœur bat face au bruit, tu vas dire, cette année, je dois quitter le pays. Le pasteur dit, ce sera difficile, je vais revenir. Cette année, sème en Côte d'Ivoire. Ne quitte pas ce pays. Il y a certains qui sont appelés à aller à l'étranger. Mais peut-être pas toi. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter sur le premier point. Alléluia. Amen, amen. Parlons au Seigneur. Prions le Seigneur. Tu demandes à Dieu pardon, mais déjà commence à proclamer les choses. Regarde en toi, y a-t-il une chose qui t'effraie? Y a-t-il une nouvelle qui t'a effrayé? Est-on en train de t'annoncer une maladie bizarre, des choses qui sont en train d'arriver? Commence à reprogrammer ton esprit. Tout est fonction de la lumière, de la vision que tu as des circonstances. Et cette lumière-là, elle vient de Dieu. Car la Bible dit que par sa lumière, nous voyons la lumière. Dieu te dit qui tu es. Dieu te dit que en 2013, malgré tous les sons que tu entends, toi, tu seras distingué. Cette distinction n'arrive pas par hasard. Elle va arriver parce que tu vas faire certains choix. Tu vas prendre certaines décisions. Et il y a une décision qui va t'amener à t'investir dans une activité précise. En 2012, face à tout ce qui était fait, nous, Dieu nous a dit de nous investir dans l'évangélisation. Nous l'avons fait. Et malgré la crise, malgré les difficultés, par la grâce de Dieu, nous avons pu construire deux bâtiments d'église. Nous avons pu mener les campagnes. Pourquoi? Parce que déjà, nous n'avons pas regardé la situation pour nous attrister. Mais nous avons commencé à regarder la lumière qui brille en nous. Et Dieu a glorifié son nom. Cette parole est aussi vraie pour toi, pour ta vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que la louange te soit rendue au sein des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Si tu te sens vainqueur, si tu sens que de cette situation, des troubles qui sont annoncés, toi, tu seras plus que vainqueur. Si tu es convaincu que toi, tu seras au sommet. Si tu es convaincu que tu es quelqu'un de différent et que parce que ton Dieu est en toi, tu n'as pas à souffrir ce que... Si tu es convaincu de cela, tu vas te tenir debout. Et tu vas dire avec moi, dans le nom de Jésus, je marche dans la victoire. Je proclame la parole. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis celui qui montre le chemin.
prophétise sur ton année maintenant. Prophétise sur ton année. Donne le nom que tu veux. Donne le nom. Dieu observe le nom que tu donnes. Donne le nom. Donne le nom à cette année. Donne le nom aux circonstances. Prends possession. Prends l'ascendant. Ton Dieu est en toi. Ton Seigneur est dans ta vie. Prends l'ascendant maintenant. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Ces augmentations, ces nouvelles que tu as entendues sont pour la gloire de Dieu. Elles contribueront à la gloire de Dieu. Ne te fais pas de la famine. Ne te fais pas de la crise. Tu es quelqu'un de différent. Tu es quelqu'un de mis à part. Ton Dieu t'a choisi. Il fait la différence au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Motivé par cet enseignement, désires-tu plus? Rendez-vous à la librairie ou à l'espace discographique proche de chez toi. Pour d'autres compléments d'informations, contacte-nous au 22 41 29 80 02 61 30 63 ou écris-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous t'invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com ou rejoins-nous à l'église Vase d'Honneur. Merci et demeure béni.